Bonjour frères et sœurs, chers amis. Donc soyez donc les bienvenus et sentez-vous bien parmi nous. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous inviter à ouvrir la parole de Dieu dans l'évangile de Luc. Luc chapitre 9. Aujourd'hui, nous lirons les versets 46 à 48. Et le titre qui a été donné dans cette section, c'est « L'humilité, secret de la vraie grandeur ». L'humilité, secret de la vraie grandeur. Donc, c'est le titre que j'ai aussi donné pour cette prédication. Juste avant cela, nous avons vu les versets précédents où il est fait mention de l'échec des disciples qui n'ont pas su guérir cet enfant qui était possédé d'un esprit qui voulait le faire périr. Et le Seigneur Jésus donc, les a repris sévèrement en leur disant « Oui, race incrédule et perverse, jusqu'à quand serai-je avec vous et vous supporterai-je ?» Donc en cela, le Seigneur les reprenait parce qu'ils, par leur incrédulité, ils faisaient comme s'ils ils n'étaient pas des disciples, des enfants de Dieu. Et par la perversité, ils agissaient comme des non-croyants qui s'opposaient même à ceux ou celles qui voulaient venir à Dieu. Et après donc, avoir délivré ce garçon, ce jeune, le texte nous dit qu'au verset 43, « Et tous furent frappés de la grandeur de Dieu, tandis que chacun était dans l'admiration de tout ce que faisait Jésus. » Voilà. « Tous furent frappés de la grandeur de Dieu. » Et après cela, et là c'est Marc qui donne cette précision dans Marc chapitre 9, versets 30 à 33, Marc nous dit que le Seigneur Jésus va partir, il va traverser la Galilée jusqu'à Capernaüm. Et lorsqu'il arrive dans la maison où ils vont être, il va poser cette question aux disciples de quoi ils discutaient sur le chemin et quel était donc le sujet de conversation. Et les disciples ne vont pas répondre. Mais Jésus, connaissant leur cœur et leurs pensées, savait de quoi ils discutaient. Et donc, Luc, dans son évangile, donc, va reprendre cela. Et puisque le sujet de conversation, c'était qui était le plus grand parmi eux. Telle était donc la pensée qui occupait leur esprit. Tel était le sujet de conversation. De leur conversation. Et donc nous lisons verset 46 de Luc chapitre 9. Il est dit que « Or, une pensée leur vint à l'esprit, savoir lequel d'entre eux était le plus grand. Jésus, voyant la pensée de leur cœur, prit un petit enfant, le plaça près de lui et leur dit « Quiconque reçoit en mon nom ce petit enfant, me reçoit moi-même, et quiconque me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Car celui qui est le plus petit parmi vous tous, c'est celui-là qui est grand. » Et donc nous allons nous arrêter là pour l'instant pour la lecture. Alors visiblement, on peut dire que dans cette question, qui est le plus grand parmi eux, c'était vraiment une préoccupation pour les disciples. Puisque à trois reprises, frères et sœurs, ce sujet de conversation sera évoqué durant cette dernière année du ministère de Jésus, avant donc sa crucifixion. Donc là, on est dans cette troisième année là, et un peu plus tard, quelques semaines avant la crucifixion de Jésus, Ils vont encore poser cette question. Alors, ce sujet de conversation va revenir. Qui est le plus grand ? Et puis, juste avant la crucifixion, donc la veille, alors que le Seigneur leur parle de la mort, de sa mort, etc., eux, c'est encore là, ce sujet de conversation qu'ils ont, qui est le plus grand. Et c'est ce que j'aimerais voir avec vous ce matin, voir ces trois temps avec cette préoccupation pour les disciples, savoir qui est le plus grand, et voir quel est l'enseignement de Jésus par rapport à cette question, qu'est-ce qu'il attend de ses disciples et qu'est-ce qu'il apprend à ses disciples par rapport à cela. Donc ce premier temps, c'est, on voit que Jésus apprend à ses disciples l'importance de l'humilité pour entrer dans son royaume, mais aussi pour vivre dans son royaume. Pour Jésus, le grand, d'après ces versets, je vais dire simple, le grand, c'est le plus petit. Celui qui fait preuve d'humilité. Dans ce verset 48, il dit, « Car celui qui est le plus petit parmi vous tous, c'est celui-là qui est grand. » Et il prend un enfant, il le place parmi eux, et leur dit, « Donc quiconque reçoit en mon nom ce petit enfant me reçoit moi-même, et quiconque me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. » Et Matthieu, parce qu'en lisant les autres évangiles, nous lisons Matthieu 18, verset 4, « C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. » Quiconque se rendra humble comme ce petit enfant. Le Seigneur Jésus demande à ses disciples d'être humbles comme un petit enfant. Un petit enfant qui sait qu'il a besoin de ses parents pour son nécessaire de chaque jour. Un petit enfant qui sait qu'il ne peut agir comme bon lui semble, mais qu'il vit dans la dépendance totale vis-à-vis de ses parents. Et c'est comme ça que le Seigneur voudrait que l'on soit, reconnaître que nous avons besoin de lui et reconnaître que sans lui, on ne peut rien faire. C'est ce qu'il dit dans Jean chapitre 15, verset 5. Et si les adultes considéraient les enfants comme les derniers dans le temps de Jésus, et encore peut-être moins maintenant, mais beaucoup, quand on est enfant, on n'a pas droit à la parole. On est toi, tais-toi. On a parfois peu de considération pour les enfants. Jésus, quant à lui, il honore les enfants. Il place au centre l'enfant et demande à ses disciples de les recevoir en son nom, en faisant preuve de bonté, de compassion envers eux et en les servant. Et ça me parle vraiment beaucoup parce que lorsque parmi nous, nous, comme encore ce matin, nous écoutons ces enfants, cette parole de Jésus-là prend tout son sens. Écoutez les enfants, faites comme eux. L'humilité. Être comme un enfant. Et pour Jésus, au lieu de se demander qui est le plus grand, chaque disciple doit chercher à être grand en humilité. Puisque c'est en faisant preuve d'humilité que l'on entre dans son royaume. Et c'est ce qu'il explique dans Matthieu chapitre 18. Il dit, Jésus ayant appelé un petit enfant, le place au milieu d'eux. Il dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Donc c'est l'humilité qu'on peut manifester, être comme un enfant, c'est reconnaître notre besoin, reconnaître notre état, reconnaître que sans Dieu on ne peut rien faire, reconnaître qu'on a besoin de Jésus si on veut que notre vie puisse être changée. Et pour cela, il faut s'humilier. Et beaucoup de personnes n'acceptent pas Jésus parce qu'ils ne veulent pas s'humilier. Ils ne veulent pas reconnaître leur état, reconnaître qu'ils sont pécheurs, reconnaître qu'il n'y a rien de bon en eux. Ils pensent toujours que c'est les autres qui sont pires et qu'eux, ils n'ont pas besoin de Jésus. Ça, c'est l'orgueil. Et à cause de l'orgueil, on ne vient pas à Christ. À cause de l'orgueil, on reste et on va droit en enfer. Donc le Seigneur Jésus dit que si vous voulez entrer dans le royaume de Dieu, vous devez faire preuve d'humilité et reconnaître votre état devant Dieu, vous humilier, vous mettre plus bas que terre, vous déchirer les vêtements comme ça se faisait à l'époque, se rouler dans la cendre pour montrer son humilité. Mais il dit, non seulement pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut faire preuve d'humilité, mais pour pouvoir vivre dans le royaume aussi, c'est l'humilité qui prévaut. Comme un petit enfant, on sera grand dans le royaume de Dieu que si on fait preuve d'humilité. Et donc il rajoute dans ce texte de Matthieu chapitre 18, verset 4, il dit « Celui qui est le plus petit parmi vous tous, c'est celui-là qui est grand. » Et dans Marc chapitre 9, verset 35, et il s'assit, appela le 12, il dit « Si quelqu'un veut être le premier, il dit, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. » Là, c'est Marc chapitre 9, verset 35. « Si quelqu'un veut être le premier. » Signe d'orgueil déjà, vouloir être le premier. Alors il dit, si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. Pour dire que si c'est l'orgueil qui vous pousse, qui vous commande, qui vous pousse à agir, si vous faites les choses par orgueil, alors vous serez toujours le dernier. Si on veut être grand dans le royaume de Dieu, le Seigneur nous dit qu'on doit faire le choix dès maintenant d'être le dernier et d'être le serviteur de tous. Donc le Seigneur rappelle combien il est important de faire preuve d'humilité. Dans Proverbes, il est dit au chapitre 29, je cite, verset 23, « L'orgueil d'un homme l'abaisse. » Mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Dans Proverbes chapitre 29, verset 23. Lorsqu'on est orgueilleux, alors cela nous abaisse. Et celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Dans Luc chapitre 14, verset 11, le Seigneur dit « Car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. » Et Pierre, dans 1 Pierre 5, dit, notamment, on dit de même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Celui qui veut être grand doit être petit. Le Seigneur Jésus, nous savons qu'il a quitté sa gloire. Il s'est fait petit en venant sur cette terre. L'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9, « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus, qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. » Le Seigneur s'est fait petit pour nous enrichir. Il s'est humilié lui-même, dit l'apôtre Paul dans Philippiens chapitre 2, verset 8, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et juste avant de donner sa vie sur cette croix, le Seigneur va apprendre cela encore à ses disciples, que pour pouvoir vivre ensemble dans son royaume, que c'est ce qui est important, c'est d'être le serviteur de tous. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va les réunir et il va prendre une bassine avec de l'eau et il va se mettre à laver les pieds de ses disciples. Alors Pierre dit, non, pas moi, tu ne vas pas me laver les pieds, tu es le Seigneur, tu ne vas pas. Non, si moi je ne te lave pas les pieds, tu n'as aucune part avec moi. Et le Seigneur va laver les pieds des disciples et il va leur dire, ce que j'ai fait, si donc je vous ai lavé les pieds, il dit, moi le Seigneur et le Maître, alors vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres, car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Pour expliquer à ses disciples l'importance de l'humilité, d'être le serviteur de tous. Et pour pouvoir être agréable à notre Seigneur, nous devons faire preuve donc d'humilité dans nos rapports. Ne cherchons pas les premières places, mais soyons serviteurs des uns et des autres. Et c'est vrai que le mal de notre société, c'est que tous veulent être le plus grand, le plus beau, le plus fort, celui qui est au-dessus de l'autre, qui est prêt à écraser l'autre. Mais dans le royaume de Dieu, parmi les enfants de Dieu, il n'en est pas ainsi. Et la vie dans l'Église est conditionnée aussi par le fait que nous faisons preuve d'humilité les uns vis-à-vis des autres. L'apôtre Paul, il dit aux anciens de l'église d'Éphèse qu'il a servi le Seigneur en toute humilité et avec larmes, dans Actes chapitre 20, verset 19. Il disait qu'il se considérait comme le pire des pécheurs, que Jésus-Christ, il est mort pour les pécheurs, il dit, donc moi je suis le premier, dans 1 Timothée chapitre 1, verset 15. Il disait de lui qu'il était le dernier des apôtres, dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 8 à 9. Lorsque Jésus-Christ ressuscité a apparu aux apôtres, et à plus de 500, et après dit, après eux tous, il m'est apparu à moi comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Et dans 1 Corinthiens 9, pour défendre son titre d'apôtre qui était attaqué, puisque là aussi c'est la manière de faire de l'ennemi pour décourager, c'est attaquer et ne pas reconnaître le rôle de l'un ou de l'autre, il rappelle qu'il a fait le choix d'être le serviteur de tous, afin de gagner, dit, le plus grand nombre, dans 1 Corinthiens 9, verset 19. Il a fait le choix d'être le serviteur de tous. Et pour cela, il n'a pas voulu user de son droit de prédicateur de l'Évangile. Et donc, il a servi le Seigneur. Il dit, nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacles à l'Évangile de Christ. Donc, nous avons là les exemples. Nous rappelons que le Seigneur dit qu'il est important d'être humble, car celui qui est le plus petit parmi vous tous sera, c'est celui-là qui est grand. Il y a un proverbe qui dit, ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté, dans Proverbe 19. Et je pourrais dire que ce qui fait la grandeur d'un homme, c'est son humilité. Que le Seigneur nous fasse grandir en humilité. Alors, c'est des disciples, puisque c'est vraiment là le problème qu'ils avaient, c'était leur sujet de conversation, de savoir qui était le plus grand parmi eux. Le Seigneur va leur dire ça, mais visiblement, c'est rentré là et c'est sorti là. Quelques semaines après, ce sujet va revenir et j'aimerais lire avec vous ce texte de Marc, chapitre 10. Donc on est à quelques semaines de la crucifixion. Marc chapitre 10, verset 35. Là, on va lire tout ça jusqu'au verset 45. Marc chapitre 10, verset 35, il dit que les fils de Zébédée, Jacques et Jean, s'approchèrent de Jésus et lui dirent, « Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. » Il leur dit, « Que voulez-vous que je fasse pour vous ? » ?»« Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche quand tu seras dans ta gloire. » Jésus leur répondit, « Vous ne savez ce que vous demandez. » Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé? Nous le pouvons, dirent-ils. Et Jésus leur répondit, il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire et que vous serez baptisé du baptême dont je dois être baptisé. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui cela est réservé. Les dix, ayant entendu cela, commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit, « Vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les dominent, il n'en est pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous, qui soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. » Alors, l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit au chapitre 2, verset 9, il parle de Jésus, il dit que celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a souffert la mort pour tous. Hébreux chapitre 2, verset 9. Donc, l'auteur dit, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur. C'est cette glorification future, et notamment Jacques et Jean, ils étaient là au moment de la glorification, de la transfiguration de Jésus. Et donc, ils ont pu voir le Seigneur glorifié. Et sachant cela, donc ils s'approchent de Jésus pour lui faire part de ce qu'ils avaient sur le cœur. « Maître, nous voulions que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. » Il dit « Accorde-nous, lui dit-il, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. » Quand tu seras dans ta gloire. » Donc là, on voit que ces deux disciples voyaient déjà leur avenir en rose à la tête du royaume avec le Seigneur, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Ils ont été donc les témoins privilégiés avec Pierre, comme je le disais, de la transfiguration, lorsque Jésus-Christ a été transformé sur la montagne. Ils étaient des témoins privilégiés lorsque Jésus a pris, là encore avec Pierre, ses trois disciples pour entrer dans la chambre de la fille de Jaïrus qui était morte et que Jésus va redonner la vie. Et ce sera encore eux qui seront pris avec le Seigneur lorsqu'il sera à Gethsémané, et le Seigneur va leur demander de prier avec lui parce qu'il était en agonie. Et donc ses disciples se savaient ou se croyaient, et ils se savaient aussi privilégiés, et ça s'est peut-être monté à leur tête pour dire finalement ça sera peut-être nous les plus grands. Et est-ce qu'on peut s'asseoir l'un à droite et l'autre à gauche? Il voulait avoir les meilleures places, places d'autorité. Et dans Matthieu, Matthieu souligne même qu'ils en ont même parlé à leur mère de cela, puisque la maman est même venue voir Jésus pour leur parler de ça. Et donc le Seigneur Jésus, il ne répond pas oui, il ne dit pas non. Ils ne disent pas qu'ils auront exactement ce qu'ils ont demandé, puisqu'il dit, c'est le Père seul. Il dit, vous ne savez ce que vous demandez. Et donc le Seigneur va nous instruire là encore par rapport à ce sujet, pour leur dire que si vous voulez être grand, il faut déjà être prêt à souffrir comme Jésus a souffert. C'est déjà la première des choses. Il leur dit, pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé? Vous voulez être à ma droite et à ma gauche, mais est-ce que vous pouvez boire la coupe que je dois boire ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé? Donc là, le Seigneur parle de ses souffrances. Le Seigneur parle de sa mort. Donc il est bon de prendre le temps de réfléchir avant de demander quelque chose. Parfois on demande et puis on ne sait pas aussi les conséquences aussi de ce qu'on a demandé. Et les disciples disent, oui, nous le pouvons. Pierre aussi, à un moment, il a dit à Jésus, tous peuvent t'abandonner, moi, je serai là. Et puis lorsque la tentation est venue, lorsqu'on est venu arrêter Jésus, alors il est parti, il a pris la fuite. Et les autres sont partis aussi. Il a renié le Seigneur. Et donc le Seigneur dit à Jacques et Jean, oui effectivement, vous allez boire la coupe, puisque Jacques fut le premier apôtre que fera mourir le roi Hérode dans Actes chapitre 12. Verset 2. Hérode, c'est pour pouvoir plaire, il a fait tuer Jacques et il a fait arrêter Pierre. Et Jean, lui, sera arrêté à plusieurs reprises et sera exilé sur l'île de Patmos, il dit, à cause de la parole de Dieu. Donc, ils vont souffrir et à cause de leur foi. Donc, ça, c'est une chose. Donc j'apprends que, et c'est ce que le Seigneur leur dit, il faut être prêt à souffrir. Tu veux être grand, mais est-ce que tu es prêt à souffrir pour le royaume de Dieu? Et l'autre chose qu'il dit, c'est que le choix des places ou des fonctions ne dépend pas de la volonté de l'homme, mais dépend de la volonté souveraine de Dieu. Ce n'est pas nous qui décidons dans quelle place que nous allons être, quelle place que nous allons avoir. C'est la volonté de Dieu. Et dans sa souveraineté, Dieu attribue les places ou les fonctions dans son royaume à qui il veut et comme il veut. Et c'est ce qu'il fait dans son Église. Dans Éphésiens chapitre 4, il est dit que c'est lui qui donne à l'Église les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs. Ce ne sont pas les disciples qui ont choisi d'être apôtres ou quoi que ce soit. C'est Jésus qui les a choisis et qui les a établis. Et c'est Dieu qui donne par son esprit les dons spirituels aux uns et aux autres comme il veut, il est dit dans 1 Corinthiens chapitre 12. Donc on ne choisit pas non plus son don. Donc chacun a une fonction, chacun a une place en fonction des dons que Dieu a donnés et Dieu choisit selon sa souveraineté. Et c'est pas, et là aussi c'est faire preuve d'humilité, d'accepter le don que Dieu nous a donné et aussi de se soumettre à sa volonté. Notre responsabilité, et seulement d'accomplir la tâche que Dieu nous a confiée. C'est ça notre responsabilité. Et ce qu'il attend de nous, c'est que nous soyons trouvés fidèles, comme il est dit dans la parabole des talents. Et son maître qui lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, et entre dans la joie de ton maître. Et la troisième chose que je veux noter dans ce passage, c'est que pour être grand, il faut accepter d'être au service des autres, comme Jésus l'a fait. Et c'est ce qu'il leur dit là. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Il faut choisir d'être le serviteur de tous. D'accepter d'être le serviteur de tous. Accepter d'être prêt à se sacrifier pour les autres. Parce que c'est ce que le Seigneur Jésus a fait. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu, il s'est dépouillé de tout et il est venu sur cette terre. Et l'apôtre Jean nous dit que, de la même manière que Jésus a donné sa vie comme la rançon de beaucoup, nous qui avons connu l'amour, il dit, en ce qu'il a donné sa vie pour nous, nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. C'est ce que Jean dit dans 1 Jean chapitre 3, verset 16. Et l'humilité nous pousse à cela. L'humilité nous pousse à accepter la place que Dieu a prévue pour nous. L'humilité nous pousse à être prêts à nous sacrifier pour les autres et à servir les autres avec simplicité. Le troisième exemple que j'aimerais voir avec vous, c'est dans Luc chapitre 22. Alors, Luc chapitre 22, versets 24 à 30. Et là, je note que pour Jésus, celui qui est grand, eh bien, il doit rester petit. Puisque Jésus ne dit pas qu'il n'y a pas de grand, parce qu'il y a toujours des fonctions différentes. Et il y a de ceux qui dirigent, ceux qui ne dirigent pas. Mais il dit, ceux qui sont grands, ben, vous devez rester petits. Puisque malheureusement, lorsqu'on devient grand, il y a des problèmes. L'apôtre Pierre dit même de... Il dit aux anciens, ne dominez pas sur les gens. Et parfois, ou bien Diotrephe qui aime être le premier et puis qui empêche à certains de faire le service que Dieu leur a donné de faire. Parce qu'il y a toujours l'orgueil qui est là et il faut toujours combattre l'orgueil. Et là, dans ce texte, je veux noter que celui qui est grand, eh bien, il doit rester petit. Luc 22, verset 24 à 30. Et là, on est, c'est la veille de la crucifixion de Jésus. Pour voir vraiment que ses disciples, c'était ça qui les occupait durant ces derniers mois avec leur Seigneur, qui sera le plus grand. Et malheureusement, c'est des choses qui mettent la zizanie, le poison parmi les chrétiens. Alors, il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation. Luc 22, verset 24. Lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand? Jésus leur dit, les rois des nations les maîtrisent et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car quel est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Vous, vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur comme mon Père en a disposé en ma faveur, afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume et que vous soyez assis sur les trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. » Donc ça, c'est pour les disciples, ça est dit. « Vous serez assis à ma table sur les trônes aussi pour juger les 12 tribus d'Israël. » Puisqu'ils ont persévéré avec le Seigneur et ils ont ces privilèges-là. Celui qui est grand doit rester petit. Mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit et celui qui gouverne comme celui qui sert. Pour devenir grand, puisque c'était ça la question au départ, il faut être petit, faire preuve d'humilité. Mais pour rester grand, il faut rester petit aussi. En d'autres termes, quelle que soit la fonction en responsabilité que nous pouvons avoir, faire preuve d'humilité pour pouvoir y accéder, et nous devons rester humbles dans l'exercice de nos fonctions. Sinon, nous sommes disqualifiés. Et l'exemple que j'ai deux exemples à donner, l'exemple de Saül, le premier roi d'Israël, dans 1 Samuel chapitre 9. Vous savez, Saül, le peuple d'Israël a demandé à avoir un roi. Et Dieu, il a envoyé Samuel dans la tribu de Benjamin. Et Dieu dit à Samuel que ça sera donc Saül qu'il a choisi pour pouvoir être le roi d'Israël. Alors vous connaissez un peu cette histoire. Saül, il va devenir donc roi et après, il va faire deux erreurs majeures puisqu'il ne va pas rester à sa place. Déjà, dans un premier temps, il va offrir un holocauste, alors au lieu d'attendre que Samuel arrive pour pouvoir le faire. Et après, Dieu va lui demander de dévouer par interdit les Amalécites. Il devait tout détruire. Et il a fait le choix de garder les animaux qui sont en bonne santé au lieu de tout sacrifier. Et dans 1 Samuel, chapitre 9, c'est ce qu'on lit, le début, 1 Samuel chapitre 9, verset 21, et on voit là son humilité. Lorsque il va faire cette rencontre avec Samuel au tout début, Saül répondit, il dit, « Ne suis-je pas benjamite de l'une des plus petites tribus d'Israël ? Et ma famille n'est-elle pas la moindre de toutes les familles de la tribu de Benjamin? Pourquoi donc me parles-tu de la sorte ?» Donc voilà comment il se considérait. Comme étant le plus petit. Et donc il ne comprenait pas que lui soit choisi. Et après, qu'est-ce que nous voyons dans 1 Samuel chapitre 15? Donc comme je disais, donc, il ne va pas obéir au commandement de Dieu. Et c'est là que Dieu va lui dire que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Et Samuel va lui dire au 1 Samuel chapitre 15 verset 17, Samuel lui dit, « Lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'avait fait partir en disant, « Va et dévoue par interdit ces pécheurs, les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel ?» Il dit, « Lorsque tu étais petit à tes yeux. » Donc, Saül, au lieu de rester petit, il a laissé l'orgueil prendre le dessus et il a désobéi. Et je vais juste tourner quelques pages pour donner l'exemple de David. Dans 2 Samuel chapitre 7, là encore on sait que David c'était un berger. Et dans 2 Samuel chapitre 7, il dit, voilà, qu'il veut construire une maison à l'Éternel. Et Dieu envoie son serviteur, Nathan, pour lui parler. Et je lis verset 8, 2 Samuel chapitre 7, verset 8. Dieu dit à Nathan, maintenant tu diras à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées, je t'ai pris au pâturage, derrière les brebis, pour que tu sois chef sur mon peuple, sur Israël. J'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi, et j'ai rendu ton nom grand comme le nom des grands qui sont sur la terre. J'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël. Et j'ai planté pour qu'il soit fixé et ne soit plus agité, pour que les méchants ne l'oppriment plus comme auparavant, etc. Vous voyez, Dieu rappelle à David, voilà d'où il a pris, au pâturage derrière les brebis. Et David savait ça parce qu'après, qu'est-ce qu'il va dire au verset, je lis à partir du verset 17. Donc Nathan rapporta à David toutes ces paroles et toute cette vision. Et verset 18, et le roi David alla se présenter devant l'Éternel et dit, qui suis-je, Seigneur? Et quelle est ma maison pour que tu m'aies fait parvenir où je suis? C'est encore peu de choses à tes yeux, Seigneur Éternel. Tu parles aussi de la maison de ton serviteur pour les temps à venir. Et tu daignes instruire un homme de ces choses, Seigneur Éternel. Que pourrais-tu dire de plus, David? Tu connais ton serviteur, Seigneur éternel. Voyez? Qui suis-je, j'ai dit. Et quelle est ma maison pour que tu m'aies fait parvenir où je suis? David était petit, il est devenu grand. Et devenu grand, eh bien, il est resté petit. Il reconnaît que d'où il vient, ce que Dieu a fait pour lui. Et il reconnaît la grâce de Dieu. Alors, ce texte que nous avons lu, frères et sœurs, nous encourage et nous exhorte à faire preuve d'humilité dans nos relations, à faire preuve d'humilité les uns vis-à-vis des autres, à être serviteurs des uns et des autres, à ne pas chercher à être le premier, mais en étant serviteur des uns et des autres, si Dieu veut que l'on soit grand, eh bien on sera grand. Si Dieu veut qu'on soit petit, eh bien on va rester petit, etc. C'est Dieu qui fait. Et le Seigneur nous dit d'être comme ses petits-enfants. Il nous dit aussi de ne pas être une pierre d'achoppement pour ses enfants. Et donc, à nous, frères et sœurs, de leur montrer aussi cet exemple d'humilité dans nos rapports, dans nos relations, pour qu'ils voient aussi la bonté de Dieu qui est manifeste. Et que Dieu puisse être glorifié. Ce qui fait la bonté, ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. Et comme je l'ai dit, ce qui fait la grandeur d'un homme, la grandeur d'une personne, alors c'est son humilité. Alors je vais terminer avec ce passage que j'ai cité tout à l'heure, mais dans 1 Pierre chapitre 5. Alors, je vais lire à partir du verset 1. Il dit, voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain berger paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen.